Bonjour à tous. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, la réouverture de la librairie la plus ancienne d'Algérie, la librairie Moguin à Blida. Un mythe, une institution, plus d'un siècle d'histoire. Le jour J, ce jour béni, c'était la semaine dernière. Faisal Metaoui était sur place, micro en main. L'équipe qui relance ce lieu, vous l'entendrez, a plein de projets, elle est pleine d'envie. On sera avec elle dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour commencer, rencontre avec l'humoriste Jalil Tijani. Il nous a reçus cette semaine dans la grande salle du studio des Arts Vivants de Casablanca où il se produisait vendredi. Les 600 places se sont vendues en un clin d'œil. C'est comme ça. Quand Jalil monte sur scène, c'est pour jouer à guichet fermé. Jeux de société, son one-man show cartonne. C'est une galerie de portraits. Des hommes, des femmes, plus ou moins hystériques, plus ou moins sympathiques. Jalil fait tous les personnages.
J'avais fait ma licence à Ibiza. Mon master à Mykonos, c'est là, je suis rentré. J'ai passé un entretien avec mon père. Ouais, alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Bah, j'ai été recruté en tant qu'apprenti PDG.
Une grande famille. D'ac un chihuahua de fesses. Où il a été dressé à Paris, où son père, le chien de l'ambassadeur.
Jalil Tijani, bonjour.
Bonjour.
Votre spectacle Jeux de société, vous l'avez créé il y a 2 ans maintenant. Vous continuez à le présenter, c'est bon signe. Ça veut dire que ça marche. J'imagine qu'il a évolué, qu'il s'enrichit au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont venus se greffer, des nouveaux personnages, puis peut-être d'autres que vous auriez laissés de côté entre-temps ?
Exactement, oui. Entre la première représentation et aujourd'hui, je dirais qu'il y a au moins 4 nouveaux personnages. Donc, ouais, je continue à peaufiner le spectacle de date en date, à étoffer, à rajouter des vannes, à actualiser le spectacle en fonction de l'actualité aussi. Je trouve ça intéressant de l'ancrer dans le moment. Et voilà, la première année, c'était une année de rodage du spectacle, puisque quand il faisait 50 minutes. Et donc voilà, je l'ai aussi construit sur scène, ce spectacle. Donc c'est, on va dire que je le joue vraiment depuis un peu moins d'un an.
Ces personnages, vous les avez créés comment ? Alors j'imagine qu'il y a l'observation du quotidien, peut-être aussi de votre entourage, de votre famille. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont reconnus sur scène, qui disent « Ah tiens, mais Jalil, là, ce serait pas un petit peu moi, là ?»
Il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, mais ce personnage me fait penser à mon cousin ou à ma tante ou à mon...
» Mais à eux-mêmes.
À eux-mêmes. Les gens ont rarement le... on va dire l'humilité de dire que... Mais oui, voilà, certaines personnes, oui, se rendent bien compte que j'ai pioché un petit peu à droite, à gauche. Après, bon, j'essaye aussi de me moquer de moi aussi, surtout au début du spectacle. J'ouvre le bal par un sketch qui est un peu basé sur de l'autodérision, donc c'est important pour moi aussi.
Vous commencez votre spectacle par parler un peu de vous-même.
Oui, de moi-même, d'un complexe qui est voilà, déjà mon rapport à l'arabe classique. C'est un vieux démon que... D'ailleurs, j'ai commencé des cours d'arabe classique, là je suis très content, un cours par semaine. Et voilà, je voulais parler de ça, du rapport que moi j'ai déjà à l'arabe classique. Et du rapport qu'on a à cette langue au Maroc, voilà. Que ce soit des gens qui ont fait l'école française ou des gens qui ont fait l'école marocaine, voilà, la place de l'arabe classique m'intéressait.
J'ai commencé par vous demander s'il y avait des nouveaux personnages. Ouais. Parmi ces nouveaux personnages, peut-être un dont vous pourriez nous parler ?
Oui, alors bon, en parler, la meilleure manière d'en parler, c'est sur scène forcément, puisqu'il se présente. Alors là, bien évidemment, alors comment dire, comment le présenter celui-ci ? Alors c'est un personnage, c'est un... qui tient un kebab, hein, donc c'est un jeune homme qui a grandi en France et qui est rentré s'installer au Maroc, et on va dire qui était un ancien rappeur, hein, et qui en cours de route a arrêté de faire de la musique puisqu'il a rejoint une branche, on va dire, un peu radicale, qui est la branche salafiste. Ouais, c'est un personnage, c'est un personnage qui, voilà, en le disant comme ça a l'air lourd, mais moi j'en fais quelque chose d'un peu léger et j'essaye de montrer un personnage dans ce qu'il a de contradictoire, et j'essaie d'en faire au final quelqu'un d'attachant qui s'est laissé séduire par un dogme rassurant.
Quand vous dites que vous n'en faites pas un personnage trop lourd, dans votre galerie de portraits, il n'y a pas de parfait salaud. Il y a toujours un côté humain à un moment ou à un autre qui émerge.
C'est un peu comme un avocat, hein. On défend des personnages, c'est-à-dire que parfois on reproche à certains avocats de prendre la défense de personnes qui sont indéfendables. Donc voilà, moi, il y a des fois où je me dis, même si cette personne est odieuse, c'est un enfoiré, mais je vais le défendre ou bien je vais la défendre. Et il y a d'autres fois où je me dis non, là c'est clairement, ça me paraît évident, ce personnage je vais le tailler quoi, je vais le faire passer à la casserole. Mais ouais, la démarche change, ça dépend. Il y a des personnages où pour moi c'est pas le personnage qui est le plus important, mais le propos. On retrouve cette tradition même chez Molière où il va prendre un trait de caractère d'un personnage qui va devenir d'ailleurs le titre de la pièce. Je vais plus me concentrer sur la tare que sur la construction du personnage. Par exemple, voilà, j'ai un personnage qui est une espèce de courtisan, hein, fourbe. Et pour moi, le fait de me concentrer sur la tare est plus important, a été pour moi dans ma démarche plus importante que de me concentrer sur son humanité.
Le courtisan, c'est le cadre dans l'entreprise qui dit des choses gentilles au patron en permanence, qui faillote.
C'est celui-ci exactement, celui qui faillote, celui qui est un peu qui veut une promotion à tout prix et qui est prêt à éliminer tous ceux qui se présenteront devant lui quoi.
Ouais. Vous me connaissez, monsieur Assidi, je suis intègre. Je dis toujours ce que vous pensez.
Je dis toujours ce que vous pensez. Il a mal au ventre. Excusez-moi, je suis en train d'avoir une opinion. ouais, c'est ouais. Ce personnage m'intéresse. Donc j'ai voulu le ramener avec moi sur scène pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà.
Il y a lui, il y a le fils à papa, il y a la fille matérialiste qui compte le nombre d'années en sac à main. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 5 sacs à main. Le chauffeur de taxi.
C'est bien le spectacle.
Parmi tous ces personnages, ouais. Votre préféré? Celui vraiment, vous dites, lui, je peux pas m'en passer.
J'ai fait une interview ce matin, on m'a posé la même question.
Mais j'imagine.
Je m'interdis, je le répète, j'ai parfois des préférés d'une soirée à l'autre, mais je m'interdis de faire du favoritisme. Voilà, ce sont tous mes enfants et j'essaye de les aimer de la même manière. Mais
là, c'est le discours que vous tenez aujourd'hui.
Je commence à devenir comme un politique.
Dans une interview sur laquelle je suis tombé, vous parliez du chauffeur de taxi.
Ouais, oui, c'est vrai.
Vous avez des problèmes avec les autres personnages qui vous ont dit comment ça, le chauffeur de taxi.
Exactement,
et pourquoi nous?
Après, on fait des réunions du syndic entre nous et ils me demandent des comptes. Non, ça dépend vraiment, ça dépend d'un soir à l'autre. Oui, petit faible pot. Là, par exemple, la dernière date que j'ai fait à Rabat, j'ai particulièrement aimé le courtisan. Alors, je me suis senti très à l'aise dans ce personnage. Ensuite, la personne qui tient un kebab, je m'amuse beaucoup. Le gars en boîte de nuit aussi, qui est le parvenu par excellence. Ouais, il est marrant parce qu'il est... C'est très intéressant. J'aime beaucoup jouer des personnages qui sont exubérants, en fait. J'aime pas essentialiser les personnages. Parfois on dit la bourgeoise, ça veut rien dire pour moi. La bourgeoise, là, ça veut dire quoi la bourgeoise? On peut être bourgeois et très humain et pauvre et salaud. Et c'est vraiment... J'aime pas cette appellation. Non, c'est même quand on dit le chauffeur de taxi, non, c'est pas le chauffeur de taxi, c'est un chauffeur de taxi parmi tant d'autres. Ça, c'est très important pour moi de pas essentialiser, de pas. Donc, oui, donc cette personne d'une classe aisée que j'interprète sur scène et qui représente une certaine frange, on va dire, un peu excessive de la société, elle est très exubérante. Et oui, c'est jouissif de jouer des personnages qui sont éloignés de nous. Une femme, c'est extraordinaire pour moi de jouer. J'adore jouer une femme, c'est éloigné de moi, donc ça me sort complètement de moi.
Et ça renforce le pouvoir comique, peut-être?
Ça renforce le pouvoir comique, je pense très certainement. Il faut demander l'avis des femmes qui sont dans la salle aussi. Est-ce que ça leur fait de voir un homme jouer une femme? J'étais en train en même temps de me poser la question, est-ce que j'ai déjà vu des comiques femmes jouer des hommes, des personnages hommes? Je crois que Florence Foresti le fait.
Je crois aussi, ouais. Oui.
Voilà. Je crois qu'on fait, pour vous voulez la vérité, je crois qu'on fait mieux les femmes que les femmes ne jouent les hommes. C'est compliqué pour elles de jouer des hommes parce qu'il y a ce côté, la voix. Et donc, je sais pas, c'est un peu peut-être un peu méchant ce que je viens de dire, mais en tout cas, j'aimerais bien voir plus de comiques femmes se moquer de nous. Parce qu'on est vraiment ridicule, nous aussi, clairement.
Vous gardez la barbe, de toute façon, sur scène. C'est une femme barbue.
Ouais. Ben je compte sur l'imagination du spectateur pour y croire parce que non, je ne suis pas prêt à sacrifier cet atout charme.
Beaucoup de musique dans votre spectacle, ça permet de faire des parenthèses, des intermèdes entre les différents personnages. On va marquer une petite pause musicale. On écoute un groupe casablancais, c'est Between Athna.
Between Athna, exactement. C'est un groupe qui m'a fait l'honneur de mettre quelques-unes de leurs musiques dans le spectacle. Et c'est un groupe déjanté de rock kazaoui avec beaucoup d'humour et j'aime beaucoup ce groupe. Voilà.
Between Athna, on les écoute et on se retrouve juste après.
Midi 1, David Labo.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
عندك تاكل هندية وانت غادي الوالدية تعرف لي اش داروا ليا ولا شو قالوا ليا بلدية وبجوج ريال هندية والكوربة ب 300 هي ضربت 600
اي اي اي
وترسمت
اي اي اي
وترسمت
اي اي اي
وترسمت
اي اي اي
وقفنا وسط العربية وكرشي بزير عليا حطيتها فوق الكدية باش غنتسعد فوق وكلناكس عند الدرية وخاد الطرق ضاير بيا عاد وقف نعيط ليها وصلت وطحت
اي اي اي
فوق الطرق
اي اي اي
فوق الطرق
اي اي اي
فوق الطرق
اي اي اي
ضربتي الهندية سيغا بشوية ضربتي الجنبية خاص كون عندك شكل ما هي والقلب قادي نتكع الجنب ليمي بعيدي غتكع على كرشك
اي اي اي
على كرشك
اي اي اي
براسك
اي اي اي
بوني
اي اي اي
وصلنا مشينا الريستو انا وسطا سولو والرستو فيجيتاريان تفا جاشاف بويستو سولتو بديش تسميتو الوغ سي لي فيك دو باربري وسون بيف داري
Jalil Tijani en tournée au Maroc ces derniers jours et dans peu de temps à l'étranger. Jalil, vous avez 31 ans, vous êtes à Rabati. Votre envie d'être comédien, ça vous a pris à quel âge? Vous arrivez à le dater? Vous étiez enfant? Vous étiez ado?
Là, ça s'avère à la psychanalyse. Là.
Vous êtes assis, vous n'êtes pas allongé.
Mais je crois que j'ai toujours aimé me mettre en scène. Hein, depuis tout petit, je vois juste quand on regarde les albums photos avec les parents, et que dès qu'il y avait un appareil photo, j'aimais être derrière l'objectif et j'aimais me mettre en scène. Il y a toujours eu cette...
En faire son métier, c'est pas anodin.
Ouais, non, c'est pas anodin. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là. Il y a dû se passer quelque chose au niveau de l'enfance. Hein. J'ai dû à un moment donné réaliser qu'il y avait un pouvoir là-dedans, hein, de manière très certainement intuitive et pas encore très consciente. Et je crois que quelque part, je m'en suis bien rappelé, quoi. Et c'est resté en moi. Voilà.
Alors, ça vous a pris quel âge de vous rappeler de ce souvenir de gamin? Parce qu'au départ, vous avez fait des études, études classiques.
Bah déjà au lycée, hein, moi j'avais fait l'option théâtre et j'avais ni la maturité ni le courage au début de la vingtaine pour me lancer parce que j'avais peur, honnêtement j'avais très peur. Donc voilà, il m'a fallu un peu de temps. Je suis allé au bout de mes premières études qui étaient des études de restauration d'art culinaire et une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit bon bah écoute maintenant de toute façon comme on dit en bderija lili haliha. Sautons et puis on verra bien. Et là, je suis allé à Paris, j'ai fait Et puis dès que j'ai commencé les premiers cours de théâtre, je me suis dit, ce sera ça ou rien.
Paris, l'école s'appelle l'école du jeu, c'est une école d'art dramatique. Ça vous ouvrait un océan de possibles, enfin plusieurs voies possibles. Vous avez choisi le fait d'être humoriste, one man show.
Au Maroc. Le fait, tout est lié en fait. Hein. Le fait même de faire du théâtre, c'était pour moi une nécessité de donner du sens à ma vie. Et ensuite, j'ai creusé cette question de donner du sens. Et même quand j'ai fini mes études de théâtre, pour moi... Ça n'avait aucun sens de rester en France pour jouer dans des pièces qui, au final, j'avais besoin d'écrire un spectacle, j'avais besoin de dire ce que j'avais envie de dire sur la société marocaine. C'est ce qui faisait du sens. Donc j'ai suivi mon intuition et je suis rentré au Maroc et j'ai écrit ce spectacle. Voilà.
Un artiste, on lui demande toujours ses sources d'inspiration, ses modèles. Alors on y va, les modèles. Des prédécesseurs illustres, Gad Elmaleh, Hanan El Fadili, sont des gens qui vous ont inspiré, ou vous êtes dit, ah, c'est super, mais tiens, ça me séduit.
Moi, je m'inspire de tout. Je ne suis pas une feuille blanche. Je m'inspire de tous les êtres humains qui ont vécu avant moi et qui vivent en même temps que moi. Et oui, je suis une éponge. Je pense que c'est ma qualité aussi scénique. Enfin, quand j'étais petit, moi, j'ai grandi avec les films de Jim Carrey. Mon père m'a transmis la passion pour Louis de Funès. Après, il y a eu les premiers spectacles de Gad qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai adoré. J'ai découvert Jamel avec son rapport à l'impro, ça m'a nourri. Après, dans le rapport au texte, j'ai écouté beaucoup de rap. Contrairement à ce qu'on pense, les textes de rap sont super. C'est très bien rythmé. Il y a le rapport à la punchline qui est très important dans le rap. J'ai eu un groupe de rap, ce qui m'a permis de... C'était mes premiers essais d'écriture, c'était des écrits de rap, quoi. Et je crois que j'ai chopé là-dedans quelque chose de rythmique. Après, il y a eu la littérature qui m'a beaucoup inspiré. Il y a le Voyage au bout de la nuit de Céline qui m'a marqué. Son côté incisif et insolent dans l'écriture m'a beaucoup, beaucoup influencé. Il y a le rapport de Desproges à la scène. Il y a tout. En revenant, là, je me suis tapé du Hassel Fed. Ça m'a donné un petit coup de boost aussi. Ah ouais, moi, je prends tout. Voilà. Je prends absolument tout.
De Céline à Hassel Fed.
Exactement. Je suis c'est Amin Maalouf qui parle de ça, mais dans son rapport à l'identité, il dit des êtres traversés. Et je pense que c'est important de pouvoir être traversé, parce qu'on est toutes ces choses-là. Accepter la pluralité de nos identités et de nos influences, quoi. On est influencé par toutes ces choses-là, par des choses qui sont intellectuelles, des choses qui le sont un peu moins, d'autres qui sont... On est toutes ces choses-là. Et toute cette herrera, ça te donne au final un moi. Voilà. Voilà, je suis la conjugaison de tout cet imaginaire.
Jeu de société, votre spectacle, cette galerie de personnages comme ça, ciselée avec précision. La société marocaine, elle se prête à cela particulièrement peut-être, hein, avec ses contradictions, avec ses contrastes.
Bah oui, forcément, forcément. Oui, c'est une société pour un humoriste, je le dis au début, j'ai l'impression d'être un enfant à Disneyland. Moi, c'est l'Eldorado pour moi, c'est magnifique. Oui, c'est une société qui est très intéressante, il y a beaucoup de tabous. Là où il y a du tabou et de la rigidité pour un humoriste, c'est du pain béni. Puisque nous, on essaie de dénouer des tensions, donc c'est parfait.
Il n'y a pas de sujet que l'on écarte, justement. Vous parlez de tabou, on peut s'attaquer à tout. Ça dépend de la façon dont on le fait. Il n'y a pas des sujets à des moments où vous dites « Oula, non, ça, là, j'y vais pas. C'est trop glissant. »
Ne soyons pas naïfs. Il y a des tabous au Maroc. Ce serait mentir et ce serait malhonnête vis-à-vis de nos auditeurs de dire qu'il n'y a pas de tabous. Il y a des tabous. Sans les nommer, on les connaît tous. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie liberté de parole au Maroc aujourd'hui. Il faut vraiment arrêter de dire « Ouais, au Maroc. » Non, on peut dire énormément de choses au Maroc. Tout dépend comment on le dit et pourquoi on le dit. Et je pense que quand on est chargé de bonnes intentions, qu'on est bienveillant, on peut parler d'absolument tous les sujets, même ceux qui sont les plus délicats. Les oreilles sont ouvertes et il n'y a pas de... Quand c'est fait avec bienveillance, c'est mon expérience. Ça fait quand même 2 ans et demi que j'ai jamais eu aucun problème. On m'a jamais... Les gens sont toujours très réceptifs. Et puis, c'est pas parce qu'on critique... Le spectacle est critique. Mais c'est pas parce qu'on critique son pays qu'on n'aime pas son pays. C'est juste qu'on s'en fait une idée un peu plus belle. On aimerait que certaines choses aillent mieux, tout simplement. Bon, c'est tout.
La société marocaine, la langue, vous utilisez le français, vous utilisez beaucoup la darija. La darija, vous dites, il y a un pouvoir comique énorme dans la darija.
Oui, c'est une langue, les sonorités, je trouve, que le rapport aux sonorités, la langue, les expressions et des expressions en darija qui sont incroyables, c'est très imagé. Puis voilà, encore une fois, c'est une langue qui est souple. Donc elle prête à l'humour. Ce n'est pas une langue rigide. C'est une langue qui ne fait pas de chichi, comme le français. Le français, c'est... Le français a son argot aussi. Hein, même si ça déplaît à certaines personnes, c'est une langue qui s'est enrichie aussi de l'arabe dernièrement. Hein, on voit de plus, surtout chez les jeunes en France, ça commence beaucoup à... Il y a des mots d'arabe qui commencent à... Et en fait, plus une langue s'enrichit, parce que nous, dans le darija, il y a de l'espagnol, il y a du français, même dans la conjugaison, dans la grammaire. Donc ouais, c'est une langue qui est perméable, c'est une langue qui aspire, qui prend tout. Et c'est ce qui fait qu'une langue... J'avais vu une interview dernièrement du rappeur Nekfeu, que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il a des textes brillants, qui disait une langue ne meurt pas à partir du moment où justement elle continue à s'enrichir d'autres langues qui viennent d'ailleurs, quoi.
Un mot en darija, une expression qui vous réjouit particulièrement. Vous ne me dites pas de kasher parce que vous dites toujours de kasher, chaussettes et peut-être autre chose, un autre mot, une expression.
Je ne sais pas, comme ça, je ne saurais pas vous dire. Il y a un personnage à un moment donné qui dit Jab taz, alhamdoulilah. C'est un truc absurde, quoi. Jab taz, alhamdoulilah. Qu'y a-t-il à voir entre un P, un taz et alhamdoulilah? Voilà, c'est les opposés, quoi. C'est-à-dire que on va mettre ce qu'il y a de plus sacré à droite et ce qu'il y a de plus grossier sur la même ligne et dire, voilà, pour montrer l'opposition qu'il y a entre les deux extrêmes, ben on va les mettre sur le même truc. Oui, ça me fait rire. Ça, j'aime beaucoup. Je vais lui montrer d'où le poisson fait pipi. Pour lui montrer à quel point qui elle est, elle lui dit ça. Ça, je trouve ça très drôle aussi. Je ne sais pas si vous avez compris.
Mais vous avez de la traduction, donc tout va bien. Et après, on s'amuse toujours à savoir d'où vient cette expression, là, ouais. L'origine. Bon. Et ça, c'est dans toutes les langues.
Ouais.
Jalil, c'est votre actualité, donc jeu de société, c'est le cas depuis 2 ans, c'est quelque chose qui n'est pas statique, vous l'enregistrez au fur et à mesure, c'est un spectacle vivant. Néanmoins, il y aura une suite un jour, il y aura un après. Ouais. Vous y pensez déjà un petit peu ?
J'y pense un peu. Avant l'interview, je vous confiais que j'étais un angoissé. Donc forcément, ça me, pour être en toute humanité, je m'ouvre à vous, et en toute vulnérabilité, bien sûr, que c'est un sujet qui me travaille. Puisqu'on prend beaucoup de temps à construire un spectacle, on a un public et forcément on a peur que ça s'arrête un jour. On se dit, mais est-ce que je vais réussir à être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir revenir avec un second spectacle aussi fort ou plus fort? Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que... Voilà, ça c'est des inquiétudes qui sont d'ordre complètement égotique un petit peu, ma petite histoire personnelle. Donc j'essaye de les mettre au tiroir. Moi, ce qui est important pour moi, c'est... Oublions même un second spectacle, c'est de continuer à travailler sur cette société, d'essayer de la comprendre, de me comprendre. Et quelle que soit la forme que ça prendra, ben j'irai sur scène pour parler avec les gens. Voilà.
Ces nouvelles dates au Maroc, donc, de ce spectacle, Rabat, Casablanca.
On fera vraiment, c'est pas la tournée, hein, c'est vraiment une première tournée. On a envie qu'un maximum de gens puissent voir le spectacle. Donc voilà, là, ça s'est dessiné comme ça. Mais ensuite, on reviendra avec d'autres dates pour le national aussi.
Et puis le spectacle continue dans 2 semaines à Paris, vous y serez le 20 février.
Exactement, à l'Alhambra, le 20 février à l'Alhambra. À
et ça marche bien, ça se vend bien, vous me dites.
Ah bah c'est incroyable, c'est presque complet.
Le 21...
Ça s'est vendu plus vite qu'à Casar, c'est incroyable.
Le lendemain, le 21 à Bruxelles.
Ouais.
Le 24 à Lyon, le 26 à Genève.
Paris, j'ai fait mes études là-bas, je suis resté 4 ans, donc il y a une petite charge émotionnelle, ça me fait plaisir. Lyon aussi, j'ai passé 3 ans là-bas, donc c'est un kiff de revenir. Et Genève, j'ai vécu 1 an à Genève quand j'étais adolescent. Donc voilà, pour moi, c'est une tournée qui a du sens. Et ensuite, en plus, Montréal, vu que j'ai mes parents qui sont diplomates, j'ai passé 5 ans au Canada, j'ai grandi là-bas. Donc pour moi, c'est une tournée qui a vraiment énormément de sens pour moi.
Montréal en avril et New York également. New York. New York.
Oh yeah.
Non mais c'est un rêve, je sais pas, enfin ça le fait quoi. C'est impressionnant pour un artiste, quel qu'il soit, passer par New York un jour.
Oui, c'est clairement un rêve. C'est magnifique. C'est magnifique de jouer à New York, pour vous dire la vérité. J'appréhende un petit peu. Je suis déjà en train de penser à adapter le spectacle au maximum en anglais. Surtout qu'il y a des personnages qui parlent un petit peu anglais. Après, voilà, je l'ai dit, le jour du théâtre Mohamed V, et c'est pas de la démagogie pour moi. Pour moi, c'est important. C'est toujours... On identifie toujours le rêve à l'extérieur. Quand on est ici, on dit allez, on rêve d'une carrière à l'intérieur. C'est cool aussi de pouvoir rêver sur place aussi. De se dire que on peut rêver au Maroc. Voilà, on peut rêver au Maroc et rêver d'une carrière au Maroc. Moi, j'ai pas envie d'être obligé de rêver d'une carrière à l'étranger. Je suis très content de ce qui m'arrive, c'est magnifique. Mais d'ailleurs, j'ai écrit ce spectacle, pour être complètement honnête, pour le Maroc et pour les Marocains.
Jalil Tijani, son spectacle pour le Maroc et les Marocains, en tournée ces derniers jours au Maroc, maintenant à l'étranger, dans le monde entier, et puis vous reviendrez de toute façon au Maroc, vous l'avez dit.
Ouais, il y a un rapport, je suis pas nationaliste ou patriote très certainement, mais pas nationaliste, mais oui, j'ai un rapport assez très affectif à ce pays. Ouais.
Merci beaucoup Jalil.
Merci, merci à vous. Merci.
Et bon vent pour la suite.
Merci infiniment et bon retour à Tanger.
Alborak.
Alborak.
Midi 1, David Labo.
Dans la deuxième partie de l'émission, la librairie Moguin à Blida, en Algérie. Voilà 110 ans que son enseigne trône sur la place du 1er novembre. Fermée il y a quelques années, elle vient tout juste de relever son rideau. L'équipe qui la relance y croit dur comme fer. Mais pour l'instant, Habib Balk, 27 ans, né à Marrakech, passionné de musique gnawa depuis toujours. Ses études, il les fait actuellement en Allemagne. Son groupe de musique là-bas, il l'a appelé Deutschland Gnawa. C'est excellent et c'est dans Bain de Culture. A tout de suite.
يا نوبارك على محمد محمد يا العربي ويا الحجاج لا مشيتو هبزربة من عليا هنطو طعفي برزمزم هنوصل افرقيا الشاوية هو الانسان الثمانية وافرق احباب الجان سعيد زيد احمد حرش العيون ولد سي عيسى قال شكلا فرجي هز العلم مكتوب الله عليا ما درتو بديا وعلل سجني الشدة والبرد عليا أجدع ما عينيا الشاوية أخواتي وزاد نبيا وأفرق أحباب الجان سعيد الشاوية أخواتي وزاد نبيا وأفرق أحباب الجان سعيد هلا لا راه جواني هلا لا راه كواني يا لالا راه بلاني وهلا لا ريح بلادي انا غريب مرعاني انا وما عندي وادي وقت وواليا عورجانا في مولاي
Midi 1, bain de culture avec David Labo.
Dans un instant, la réouverture de la librairie Moguin à Blida, en Algérie. Pour aller jusque-là, Zina, la chanson du groupe Babylone, très belle reprise. La chanteuse s'appelle Widad.
ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك ونرماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبرياح الحب وعندك احتني وداني وساني وقلي حبيبك ما تنساه ايه زينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي على عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي
Voilà la reprise de Zina de Babylone par Widad. Merci à Amna qui m'a soufflé ce titre. Amna, vous la retrouvez tous les dimanches pour Covers entre 15 et 16 heures sur Median. De Widad à la grande chanteuse Reinette Lauranaise. On part à 50 km maintenant au sud d'Alger. Blida, un peu plus de 160 000 habitants lors du dernier recensement il y a 10 ans. Place du 1er novembre, une vieille bâtisse sur 3 étages. L'imprimerie Mauguin, fondée en 1857. Et juste un peu plus loin, la librairie Mauguin, ouverte elle en 1909. C'était la plus ancienne d'Algérie, ou plutôt... C'est la plus ancienne d'Algérie, car après une fermeture il y a 10 ans, elle vient tout juste de rouvrir, il y a 2 semaines. Un signe, un encouragement pour tous ceux qui aiment les livres. Non, lire, la lecture, les feuilles que l'on tourne, le papier que l'on touche, tout cela n'est pas mort. Faisal Metaoui était présent, bien évidemment. Son reportage, maintenant, Faisal commence par tendre son micro à Soulia Lounissi, c'est la gérante de cette librairie.
Pour fêter le 110e anniversaire de la création de cette librairie, 110 ans, puisqu'elle a été fondée en 1909 par la famille Mauguin. Pour commémorer le 110e anniversaire, nous avons décidé de réouvrir la librairie. Et à cette occasion, nous avons donc invité 3 auteurs, Meïs Abeille, comme marraine de l'événement, Mohamed Sari et Mustapha Bounfoudil. Elle va être ouverte, bien sûr, parce qu'il y a un projet, il y a un programme très ambitieux, culturel, que nous avons déjà tracé d'ailleurs.
Selma Hlel, directrice des éditions Barzakh, exprime sa joie après la réouverture de la librairie.
Réellement de la joie, il y a un tel déficit de librairies à l'échelle non pas seulement d'Alger, de la région d'Alger, mais à l'échelle du pays, qu'un lieu semblable, tenu par un garçon absolument passionné par les livres, je le nomme, il s'appelle Shakib, et ça c'est suffisamment rare pour que je le souligne, un lieu donc qui sera animé par un passionné, c'est une promesse inouïe, et pour les Blidéens en particulier, et pour nous, professionnels du livre en général.
Mohamed Chakib Guérig, évoqué justement par Sid Mehlel, gère la librairie Mauguin avec plein de projets en tête.
À partir d'aujourd'hui, il va y avoir une vraie vie culturelle à Blida. D'ailleurs, Blida en avait besoin, évidemment. Les étudiants aussi en avaient besoin. Depuis l'annonce de la réouverture, on n'arrête pas d'avoir des retours positifs sur ça. Ce sera une librairie évidemment classique, généraliste, basée évidemment sur deux axes. Ça sera la littérature classique, contemporaine et le fond jeunesse. On va essayer de travailler avec les enfants pour leur donner un peu le goût de la lecture. Il y aura évidemment des clubs de lecture dans les trois langues, arabe, anglais et français. Que la librairie soit aussi le centre névralgique culturel de Blida. Voilà. Que le livre soit au centre de tout ça, que le lecteur aussi nous accompagne dans notre travail.
Les activités, c'est uniquement le week-end?
Non, on va essayer de faire ça toute la semaine. Bon, évidemment, les ventes dédicaces, on va essayer de les faire normalement les samedis pour qu'il y ait plus de monde parce que les gens ne travaillent pas le samedi, voilà. Mais sinon, les activités culturelles hors ventes dédicaces et rencontres, ça sera toute la semaine. On va essayer de faire en sorte aussi de ramener quelques nouveautés en littérature contemporaine. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire en sorte qu'on soit vraiment au goût du jour par rapport à la littérature qui se fait ailleurs. Et puis voilà.
Souhila Lounissi, comme Mohamed Chakib, veut que la librairie redevienne un réel espace de culture et de savoir.
En partenariat avec le département littérature de l'université de Blida, entamé un partenariat pour qu'il y ait donc des étudiants qui passeraient donc faire de leurs recherches au niveau de la librairie. Nous allons redémarrer à cette occasion des causeries, des rencontres littéraires et bien évidemment nous allons dresser un programme pour qu'il y ait probablement même donc des rencontres nocturnes.
L'universitaire Azza Bekat a participé au début des années 2000 à la relance des activités littéraires de la librairie Mauguin aux côtés de Chantal Lefebvre, l'ex-gérante décédée en 2015.
On est vraiment très content que cette réouverture ait pu se faire parce qu'on manque vraiment d'endroits où les étudiants, surtout mes étudiants, puissent acheter des livres. Et en même temps, c'est un pôle puisqu'il va y avoir des conférences, des animations culturelles. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose que l'on attendait depuis longtemps et je remercie tous ceux qui ont rendu possible cette réouverture. Voilà. Oui, on va essayer, moi, dans la mesure de nos agendas, de nos moments de libre, bien sûr, avec grand plaisir. Ne serait-ce que pour honorer la mémoire de Chantal qui nous a tellement donné. Je suis très émue de me trouver ici.
Xavier Driancourt, ambassadeur de France à Alger, était également présent à la cérémonie de réouverture de la librairie Mauguin.
Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce que c'est la réouverture de la librairie. J'étais déjà venu plusieurs fois à l'imprimerie et on va faire des collaborations entre l'Institut français et la librairie pour pouvoir amener des écrivains, faire des conférences, faire des choses comme ça.
La romancière Maïssa B, qui a parrainé l'événement, est venue présenter son dernier roman.
Ici, aujourd'hui, c'est une double émotion. D'abord, un souvenir de la propriétaire, Chantal Mauguin, que j'ai connue, que j'ai côtoyée et dont j'ai beaucoup apprécié le travail qu'elle faisait pour les livres. J'avais fait, même en plein terrorisme quand même, on avait fait une rencontre. Elle avait eu le courage d'ouvrir la librairie pour qu'on fasse une rencontre dans cette librairie, autour d'un de mes livres. La seconde, c'est parce que c'est une librairie et que tous les lieux du livre, tous les lieux consacrés au savoir, c'est aussi terriblement émouvant de savoir qu'on continue à croire, on continue à investir, et on continue à penser que le livre est quand même un produit de première nécessité, en tout cas pour moi.
Pour le romancier et écrivain Mustapha Benfodil, venu présenter Body Writing, son dernier roman, la librairie Mauguin est un lieu mythique de la culture en Algérie.
Je crois que j'ai assisté au moins une fois aux fameuses causeries blidéennes. Disons que c'est un espace de socialisation. On a toujours l'idée que c'est un îlot, si tu veux, un espace réservé aux intellectuels, aux lecteurs, mais pour moi c'est vraiment un lieu de passage et de brassage par le livre, par le débat, par l'échange et par la présence aussi des gens qui font les livres, c'est-à-dire les libraires, les éditeurs, les imprimeurs, les fabricants et les lecteurs, parce que les lecteurs fabriquent le livre. Donc de se retrouver à un moment où l'économie du livre, un peu partout, est en train de souffrir. Donc pour moi, c'est vraiment comme un air, il y a comme un air de conquête, c'est-à-dire c'est un territoire qu'on a arraché au néant.
Blida, au sud-ouest d'Alger, Faisal Metawi pour Midi 1.
Voilà la librairie Mauguin, adossée à l'imprimerie du même nom. L'ensemble possède un important fonds documentaire remontant au 19e siècle. Après la librairie, les éditions vont être relancées. Édition, imprimerie, librairie, les trois métiers du livre seront donc à nouveau présents à Blida. Ils sont quatre Ils sont Casablancais, le groupe Nordistan sur Médien. Et dans un instant, on retourne à Casablanca.
Turn.
Friedrich Utschouf, Tu vas vivre et tu vas voir Nordistan, avec ce titre sorti il y a 4 ans maintenant. Un nouvel endroit pour écouter des groupes de musique en live à Casablanca, en plein centre-ville. Il vient tout juste d'ouvrir, on y est allé faire un tour pour voir à quoi ça ressemble.
Midi, bain de culture avec David Labo.
Je suis au carrefour entre le boulevard Anfa et le boulevard Zerktouni. Les Twins dans mon dos, la grande mosquée tout droit. Et puis, sur la gauche du boulevard Zerktouni, le backstage, une façade noire, quelques marches à monter. Salam alaikum. J'ai rencontré Rizlen. Rizlen ?
Bonsoir.
Bonsoir Rizlen. Vous êtes content de vous rencontrer ?
Bah, enchanté, puis bienvenue surtout.
Merci. Donc le lieu, nous y sommes.
Le backstage, on est enfin là, sur place, à Casablanca.
Bah, c'est grand, dites-moi.
Ben oui, c'est sur 2 étages. Vous voulez que je vous fasse une petite visite ?
Mais volontiers, je suis là pour
Avec plaisir. On a des concerts en fait tous les jeudis, de têtes d'affiche principalement marocaines. On va avoir du Hoba Hoba Spirit, on va avoir du Malem Hamid Al-Qasri, on va avoir du Karim Ziad au niveau du jazz, fusion Gnawa. Donc voilà, c'est une programmation artistique qui est assez variée.
Vous parlez de Hoba Hoba Spirit, c'est pas un hasard, parce que je crois qu'il y a l'un des membres, le bassiste, qui fait partie de l'aventure, c'est ça ?
Exactement. Alors Saad Bouidi, qui est bassiste du groupe Hoba Hoba Spirit, qui était aussi l'ancien co-gérant du Biroc, qui a été un peu le QG des amoureux de la culture à Casablanca pendant plus de 6 ans. Donc voilà, il a rejoint l'équipe depuis le début de la création du projet, justement, et puis il gère tout le volet artistique et technique.
La déco, là, je vois sur les murs beaucoup de portraits, des... Ben ça, c'est des œuvres, c'est des dessins d'artistes.
Complètement des œuvres. Alors, le backstage rend hommage à nos héros locaux. Donc,
on va se rapprocher un petit peu. Allez, bon, de là, je vois David Bowie.
Oui.
Là, c'est pas très casablancais.
Bien sûr, on a quand même des stars internationales qui ont été aussi notre inspiration. Je veux dire, on a grandi aussi avec du David Bowie, mais aussi on a grandi avec Haja Hamdaouia, on a grandi avec Richa, on a grandi avec Batma, on a grandi avec Mahmoud Guinea, qui est l'un des plus grands Alam Gnawa, qui est décédé il y a 4 ans, je pense. Et puis aussi Najat Atiabo. Alors, le tableau de Najat Atiabo est exceptionnel parce que, justement, il représente un peu son côté décalé et révolutionnaire et grande gueule. Donc voilà, on a fait appel à des artistes marocains, Aziz Jawhari et Adil Faisal. On a choisi les artistes ensemble et on leur a demandé de nous faire des propositions et on a fini par en faire de grands tableaux. Voilà.
Rizlen, la scène, elle est là ?
Oui, alors là, on a une scène qui fait 4 mètres sur 3 mètres 40. Et là, on a tout le backline pour prendre un groupe de 8 personnes sur scène facilement. Il n'y aura pas que du rock. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est qu'on veut vraiment faire plaisir à tout le monde. On va faire du rock comme on va faire de la haïta, comme on va faire du chiabi, comme on va faire le gada. Donc, tu vas pas aller dans un endroit pour écouter de la haïta, dans un cabaret, machin truc, pour écouter du khaliji, ou dans un autre, où tu es dans un coin perdu pour écouter du rock. Ici, on est dans un endroit propre, avec une belle décoration, et surtout une programmation artistique qui fasse plaisir à tout le monde et à toutes les générations. Et ça, c'est très important pour nous.
Voilà, le backstage à Casablanca. C'est à l'agenda actuellement le lancement hier du festival sur le Niger. Comme son nom ne l'indique pas, cela se passe à Ségou, au Mali. C'est la 14e édition, avec la participation cette année notamment de Vieux Farka Touré et Cher Tidiane Sek. C'est jusqu'à samedi, le samedi qui vient. Christelle Pire est sur place pour Médien. On fera le débrief avec elle dimanche prochain. 1.54, la 2e édition de cette foire d'art contemporain africain. Elle revient à Marrakech. Ce sera dans 3 semaines maintenant, les 23 et 24 février. La musique que l'on entend derrière nous, c'est celle du film Moonlight, la révélation de la cérémonie des Oscars il y a 2 ans. 3 statuettes, dont la récompense suprême, l'Oscar du meilleur film. Eh bien, Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, revient. Son nouveau film est sorti cette semaine aux États-Unis et en Europe. En Afrique, on attend la sortie. Il s'appelle Sybil Street et c'est Nathalie Michet qui nous en parle.
Ce n'est pas facile pour un cinéaste de présenter un nouveau film après avoir reçu un Oscar. Mais pour Barry Jenkins, visiblement, l'angoisse de la page blanche n'a pas eu lieu. 3 ans après Moonlight, le réalisateur nous propose à nouveau une histoire très forte où il est question d'injustice. Dans le New York des années 70, 2 jeunes noirs de Harlem sont amoureux. Ils vont avoir un enfant et s'apprêtent à se marier. Leur vie vacille quand le jeune homme est envoyé en prison pour un viol qu'il n'a pas commis. Sa fiancée va tout faire pour le sauver. Dans les rôles titres, une débutante époustouflante, la jeune Kiki Layne et le Canadien Stephen James.
You ready for this?
I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you.
Discrimination raciale, erreur judiciaire, ces sujets-là sont toujours d'actualité. Barry Jenkins aurait pu choisir de les aborder avec une approche militante, mais en adoptant le roman de James Baldwin, le cinéaste a choisi l'amour avec un grand A. Si Beale Street pouvait parler ou comment la douceur, l'intimité et l'unité familiale peuvent panser les plaies les plus douloureuses, l'adversité tout en délicatesse et en musique.
Voilà Nathalie Michet, c'est avec Cybill Street que se referme cette émission cette semaine. Merci de votre fidélité, je vous embrasse et à la semaine prochaine.
By the crowd, I felt he found.